Bon courage.
Bonjour les enfants.
Bonjour.
Nous y sommes d'habitude, puisque vous êtes beaux, je vous l'ai déjà dit. Bonjour à tous, asseyez-vous.
La pédagogie Montessori.
Maria Montessori à Madame Léon Blum, le 27 avril 1947. Madame, je voudrais vous prier d'exprimer à Monsieur le Président Léon Blum mon appréciation au discours qu'il m'a fait l'honneur de m'adresser. Monsieur le Président a bien prononcé la grande phrase « Au-dessus de la politique, il y a l'enfant, c'est-à-dire l'humanité ».
L'enfant au-dessus de la politique, ainsi parlait Maria Montessori quand elle reçut la Légion d'honneur en 1947. Aujourd'hui, 70 ans plus tard, le nouveau ministre de l'Éducation nationale explique que le meilleur moyen de dépasser les idéologies est de suivre les pistes ouvertes par les neurosciences quand elles observent les mécanismes d'apprentissage à l'œuvre dans le cerveau. Maria Montessori, née en Italie en 1870, et bien qu'elle fût une des premières femmes médecins du continent, ne disposait pas de ses connaissances, mais elle avait observé de près le jeune enfant, son regard qui fixe intensément les adultes, la vraie joie qu'il éprouve à comprendre comment se combinent les êtres et les choses autour de lui. Avant les découvertes des neurosciences, Montessori se demandait comment l'esprit absorbant des enfants devenait un esprit comprenant. Sa première création dans un faubourg pauvre de Rome en 1907 est nommée la Maison des Enfants, une maison plus encore qu'une école, un environnement approprié qui permet à l'enfant de s'ouvrir lui-même un monde nouveau, prolifique, riche de sources d'émerveillement. Pour cela, il lui faut concentrer ses énergies mentales. Là encore, Montessori rejoint une préoccupation contemporaine. Est-ce qu'on ne dit pas que nos régimes d'attention soumis à toutes sortes de sollicitations immédiates, sont en train de se dégrader. Autour de Montessori s'est constitué un mouvement qui concernait dès avant la Première Guerre trois continents. Aujourd'hui, plus de 30 000 écoles se réclament d'elle. Et en France, où le développement personnel est prôné pour tous les âges, les méthodes Montessori ont plutôt le vent en poupe. Mais la tendance est aussi à la critique du pédagogisme. Allez, encore une référence au ministre Blanquer. Il distingue une sous-discipline universitaire jargonnante sur d'elle-même, le pédagogisme, et le souci de la pédagogie que tous devraient partager. Montessori le définit ainsi, donner et faire juste ce qu'il faut pour que l'enfant puisse devenir lui-même.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Charlotte Poussin, bonjour.
Bonjour Jean.
À que sais-je aux presses universitaires de France, quel privilège, la pédagogie Montessori. Mais la collection, est-ce qu'elle est quand même austère et on ne sait pas qui est l'auteur? Alors, vous êtes entrée dans le monde des enfants et vous êtes devenue une adepte de Montessori ou vous l'aviez lu avant de vous occuper d'enfants?
J'avais lu Maria Montessori dans le texte avant de me former pour devenir éducatrice Montessori.
Et vous avez exercé pendant beaucoup d'années?
Oui, j'ai été formée en l'an 2000 et j'ai exercé au Canada et en France en tant qu'éducatrice bilingue et en tant que directrice d'école.
Je dis ça parce que ceux qui font la biographie de Montessori, de temps en temps, lancent des piques et disent « c'est un médecin, c'est une professeure d'université d'emblée et elle n'a pas voulu passer sa vie au milieu des enfants ou du moins quotidiennement avec les enfants ».
Eh bien, ils se méprennent, car elle passait quotidiennement sa vie auprès des enfants, puisqu'elle était immergée dans les écoles qui portaient son nom, dans celles qu'elle créait, dans celles qu'elle observait, qu'elle visitait. Et elle vivait aussi avec ses petits-enfants. Alors, elle n'avait pas vécu avec son fils lorsqu'il était en bas âge.
Ah là, vous êtes en train de prévenir les critiques, parce que certains biographes ont remarqué que, son fils, les premières années, l'a tenu loin d'elle.
Oui, alors il faut resituer ça dans le contexte historique. C'est une époque où on confiait facilement ses enfants à des nourrices. Bon, là, en l'occurrence, elle l'a confié à quelqu'un qui s'en occupait à la campagne parce que cet enfant était né d'une union qui devait rester officieuse. Et donc, dès qu'elle pouvait, elle lui rendait visite. La grande et la belle dame, comme il l'appelait, lui rendait visite. Et puis, petit à petit, il a pris conscience de cette maternité qui était très maternante. Et il est d'ailleurs devenu son plus grand assistant. Et son
continuateur, son héritier. Donc, de là, comparer Montessori à Jean-Jacques Rousseau qui écrit Les Mille et qui abandonne ses enfants, il y a un pas. Encore que la comparaison avec Jean-Jacques Rousseau, vous la faites d'ailleurs assez explicitement dans votre livre.
Oui, mais Maria Montessori est parmi les pédagogues alternatives, celle qui s'est le plus inspirée de Rousseau. Et elle a repris sa réflexion sur la destinée de l'humanité. Elle considérait vraiment que l'éducation était une éducation à la liberté et que la liberté était la condition de la réussite de cette éducation, la condition et l'objectif en même temps. De la même manière que l'autonomie est la clé et le but de la pédagogie Montessori.
Vous voyez, c'est une théoricienne quand même, d'abord. Première idée d'ordre théorique et philosophique, il y a une guerre, il faut oser le mot, entre les enfants et les adultes.
Au moment où Maria Montessori s'intéresse aux enfants, il y a effectivement un conflit générationnel entre les élèves, comme on les appelle, et qu'elle préfère appeler enfants, et les enseignants, qu'elle préfère appeler éducateurs, plutôt que enseignant ou instituteur, hein, du latin instutere, maître dans, elle préfère éducateur, qui vient du latin educare, faire jaillir. Et elle fait sienne la formule de Montaigne, qui est aussi un précurseur de sa pensée, et qui disait « l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais un feu qu'on allume ». Et quand elle transforme cette phrase en « l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir », elle insiste encore plus sur la spontanéité du potentiel de l'enfant qu'il faut respecter. Il est encore plus acteur de son éducation.
Oui, mais enfin, j'insiste, menace des étrangers dans le monde des adultes. Les enfants doivent être contenus. J'insiste sur ce vocabulaire parce que, elle-même, au fond, l'utilise. On va l'entendre au moins une fois dans cette émission. C'est en 1949 à la radio française. Et vous allez entendre qu'elle parle de victoire. C'est bien qu'il y a une guerre.
Après la victoire de la femme, doit venir la victoire de l'enfant. C'est aussi une vraie lutte pour la libération de l'homme. Dans l'âge enfantine, l'homme n'est pas encore libre. Et qu'il a des pouvoirs qui ne peuvent pas s'épanouir. Eh bien, ça, qu'est-ce que c'est ? Sinon, un nouveau travail, mission de la femme. Il y a aujourd'hui une quantité de femmes qui n'ont pas de gloire, de grandes positions éclatantes, mais qui, dans l'humilité de certaines professions, ces femmes-là sont les reconstructrices effectives de l'humanité.
Après la guerre, nous sommes en 1949, il faut faire œuvre reconstructrice de l'humanité. Et vous notez que sont associés, Charlotte Poussin, la victoire de la femme, la victoire de l'enfant, les femmes, les éducatrices, vous en avez été longtemps,
je suis
devant
encore
être dans l'humilité. C'est pas du tout qu'elle prône l'humilité des femmes, c'est qu'elle prône l'humilité des enseignants.
Oui, tout à fait. L'humilité de l'éducateur. Elle considère que c'est la plus grande vertu de l'enseignant, non pas d'être très très érudit, mais d'être sage. Elle rejoint Rousseau en cela aussi. Elle considère vraiment que l'éducateur doit se mettre au service, avec un grand altruisme, au service de l'enfant et à travers lui au service de l'humanité. Car elle considère effectivement que la réconciliation entre les enfants et entre l'enfant et l'adulte est la condition de la réconciliation entre les adultes de demain, puisque l'enfant est le constructeur de l'homme qu'il sera. Et donc, les enfants sont la société de demain. Donc, ils doivent être, et c'était le combat de sa vie. Et c'est vrai qu'il faut parler de lutte et de victoire, puisque même si ça a pris un siècle, elle finit par gagner cette victoire, puisque on finit par l'entendre. L'essentiel est de mettre l'enfant au centre, et non pas de suivre des recettes, des méthodes, et de faire exactement comme ce qu'elle a fait, mais de continuellement observer l'enfant, qui nous indique, selon elle, la façon dont il a besoin qu'on s'occupe de lui.
Il faut l'aider à être lui-même.
Il faut l'aider à être lui-même.
Et attention aux aides inutiles.
Alors, elle scandait effectivement que toute aide inutile est une entrave au développement de l'enfant. Et qu'il peut non seulement effacer des qualités, mais faire taire des vocations Et justement, pour reprendre cette notion d'humilité, elle considérait vraiment qu'il n'y avait pas de vocation supérieure à une autre et que toutes les personnes avaient une mission à remplir qui les dépassait et qu'ils exécutaient avec passion lorsque justement ils n'étaient pas entravés.
Alors vous dites que Montessori est de plus en plus entendu, on en parlera tout à l'heure. Enfin, je veux prévenir ceux de nos auditeurs qui doivent penser que nous faisons du puérocentrisme, qu'on est trop centré sur l'attente de l'enfant. On va continuer à exposer la deuxième grande idée de Montessori. Il s'agit de mettre l'enfant dans un environnement approprié. Et c'est pas une école qu'en 1907 elle fonde, c'est dans un faubourg de Rome, une maison des enfants.
Tout à fait, une maison dans laquelle tout est adapté à la taille et à la force de l'enfant, une maison remplie d'objets usuels, d'objets de la vie quotidienne, que les enfants sont libres d'utiliser pour suivre leur élan d'imitation et de reproduction de ce que font les adultes.
Donc, c'est une maison de poupées quand même que vous nous décrivez.
Alors justement, ce n'est pas des objets en miniature, mais des objets adaptés à la force des enfants. Donc c'est une maison à leur taille, proportionnée à eux et à leurs besoins, et surtout qui respecte leurs besoins de mouvement. Donc on ne leur demande plus d'être immobiles, leurs besoins de langage, on ne leur demande plus d'être silencieux. Et ils ont la possibilité aussi de développer beaucoup de relations sociales, puisqu'il y a un mélange des âges qui est essentiel dans l'approche Montessori.
Mais restons dans les objets. Vous l'avez lu dans le texte?
Tout à fait.
En italien?
Je l'ai traduit.
Et donc la maison des enfants, ça se dit en italien?
Casa dei Bambini.
Et dans les Fioretti en italien de Montessori, il y a ce récit fameux qui concerne les objets.
Dans sa première école de San Lorenzo, elle donnait du matériel aux enfants pour qu'ils s'en servent, qu'ils travaillent ou qu'ils jouent, appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose. Et puis un jour, la maîtresse, la personne chargée de les surveiller, est arrivée en retard. Elle est arrivée en retard et les enfants sont allés chez la concierge demander la clé du placard, spontanément. La concierge leur a donné la clé, ils ont ouvert le placard et quand la maîtresse est arrivée, ils étaient tous en train de travailler avec un matériel, ceci ou cela. Et quand Maria Montessori a vu ça, elle a dit à la maîtresse, mais écoutez, laissez-les choisir. Laissez-les choisir ce qu'ils désirent faire, ce dont ils ont besoin à un moment précis. Et de ce jour-là est entrée la liberté de choix dans toutes les écoles Montessori.
La liberté de choix, parce que un objet qui va permettre la concentration mentale et que l'enfant a choisi, au fond, c'est mieux qu'un jouet qu'on lui a offert.
Tout à fait. Et cet extrait qu'on vient d'entendre souligne bien la façon dont Montessori a conçu, vous parlez de théorisation, mais elle ne partait pas de la théorie, elle partait de l'expérience, puis elle la théorisait. Et c'est les enfants et cet incident qui lui a permis de découvrir qu'il fallait mieux laisser les objets en libre choix de l'activité. Et tout a été ainsi, elle n'a rien supposé. Et ces objets lui ont permis de se rendre compte que les enfants aimaient les objets et qu'ils entendaient ce qu'elle appelait la voix des objets.
Attendez, ça veut dire que les objets parlaient aux enfants derrière la porte du placard fermé ?
C'est-à-dire que les objets, une fois qu'ils étaient enfin mis à disposition des enfants, attiraient leur attention et par là même les motivaient à agir et donc à se développer en se concentrant.
Mais soyons clairs, un objet qu'on destine aux enfants, il faut que ce soit solide. Non, Montessori dit, ça peut être un objet fragile.
Oui,
et je l'ai choisi de telle couleur que les taches s'y voient. C'est bizarre.
Oui, un objet léger de manière à ce que l'enfant apprenne à ne pas le renverser en se déplaçant. Un objet fragile de manière à ce que l'enfant soit soigneux et ne l'abîme pas, et un objet qui attire son attention aussi lorsqu'il n'est pas à sa place. Donc c'est vraiment cet environnement pas préparé que Maria Montessori proposait était un appel à l'activité, un appel à la concentration.
Je comprends mieux la voix de l'objet. L'objet dit je ne veux pas être taché, fais en sorte de me nettoyer si tu m'attaches, c'est ça.
Exactement, et c'est comme ça qu'elle en parle.
C'est très important d'ailleurs l'activité manuelle. Vous racontez cette autre Fioretti, un enfant est là devant une assiette de soupe appétissante, il voit qu'il ne mange pas. Et pourquoi est-ce qu'il ne mange pas? Parce qu'il n'a pas mis le couvert. L'activité manuelle, C'est ce que vous faisiez très régulièrement avec les enfants quand vous étiez éducatrice Montessori.
Oui, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui en tant que maman, parce que la pédagogie Montessori, ça n'est pas que dans les écoles. Hein. C'est d'ailleurs plus une approche et un état d'esprit qu'une pédagogie. Ça ne se limite absolument pas à l'école. Et donc, effectivement, c'est une manière d'accompagner l'enfant et de l'aider à faire seul, de l'aider à ne plus avoir besoin d'aide.
Oui, mais enfin, il faut des connaissances, Madame Poussin. Par exemple, les connaissances en géographie, peut-être qu'on les acquiert pour constituer des cartes avec le puzzle. Alors, il nous faut un peu de musique maintenant, parce que M. Blanquer a dit que la rentrée devait se faire en musique. Peu d'établissements ont suivi ces directives, mais nous sommes très dociles. Steve Waring, puzzle.
Dans l'œil du chat qui lèche à ma joue, je vois ce gars qui se cachait dedans le matou. Dans l'œil du chat qui lèche à ma joue, je vois ce gars qui se cachait dedans le matou. Dans l'œil du chat qui lèche à ma joue, je vois ce gars qui se cachait dedans le matou. Dans l'œil du chat qui lèche à ma joue, je vois ce gars qui se cachait dedans le matou. Dans chat qui ma joue se cachait le tout. Dans l'œil du chat qui lèche à ma joue, je vois ce gars qui se cachait dedans le matou. Dans l'œil du chat qui lèche à ma joue, je vois ce gars qui se cachait dedans le matou. Dans l'œil du chat qui lèche à ma joue, je vois ce gars qui se cachait dedans le matou. Dans l'œil du chat qui lèche à ma joue, je vois ce gars qui se cachait dedans le matou. Dans l'œil du chat qui lèche à ma joue, je vois ce gars qui se cachait dedans le matou.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun. Sur France Inter.
Petite histoire de la pédagogie Montessori avec Charlotte Poussin qui publie dans la collection Que sais-je au PUF un livre sous cet intitulé et qui, dans sa famille et dans les écoles Montessori, pratique évidemment la mise en relation des objets avec les enfants. Bon alors, le puzzle pour la carte de géographie, les lettres.
Les lettres rugueuses.
Qu'est-ce que c'est des lettres rugueuses?
Ce sont des objets justement qui représentent toutes les lettres de l'alphabet et qui permettent à l'enfant de les apprendre une à une en les touchant, en les manipulant, puisque tout est extrêmement sensoriel et passe par l'expérimentation. Hein, la pédagogie alternative, active, implique le mouvement de l'enfant et donc sous-entend la manipulation d'un objet. Et la lettre rugueuse, elle est lisse. Elle est rugueuse sur un fond lisse, ce qui permet de bien pouvoir appréhender son mouvement et de travailler en même temps avec l'ouïe, puisqu'on prononce le son de la lettre en la touchant, le mouvement, la vue. Donc c'est une approche très globale qui permet à l'enfant d'apprendre à lire sans avoir le moindre cours de lecture ou le moindre cours collectif où on annonce les lettres tous ensemble. C'est vraiment l'enfant qui s'approprie des outils et qui, un jour, lit.
Et qui se concentre, parce que c'est ça que cherchait Montessori, la concentration. Si on laisse l'enfant faire des opérations qui peuvent être assez compliquées, il va y trouver de la joie et rester longtemps concentré.
Tout à fait. Maria Montessori a énormément réfléchi sur la concentration. Elle considère même que c'est son apport scientifique, parce qu'elle a observé des journées, des années durant des enfants se concentrer, et elle a constaté que la concentration était comme un muscle. Alors aujourd'hui, c'est confirmé par les neurosciences, hein, mais que la concentration se développait lorsque l'activité était choisie par l'enfant parce qu'il était motivé. Et du coup, l'attention que l'adulte porte à l'attention de l'enfant, hein, sans faire de jeu de mots, favorise le développement de cette concentration. C'est vraiment une manière de focaliser et d'inhiber tout ce qui peut attirer l'enfant vers autre chose que ce vers quoi il a eu l'élan d'apprendre.
Donc on ne demande pas le silence, mais le silence est là.
Exactement, c'est très surprenant quand on rentre dans une classe de Montessori de voir qu'une trentaine d'enfants libres de se déplacer et de parler sont concentrés.
Et les maths, témoignage de Madeleine Dubrovska dans une émission de Francesca Piolo sur France Culture, Profil perdu. Madeleine Dubrovska a travaillé avec Montessori dans les années 1930.
Écoutez, je trouve qu'au point de vue mathématique, c'est extraordinaire.
Enfin, vous avez été très frappée par la découverte du zéro, vous, chez les enfants.
Ah oui. Hein? Les enfants souvent mettent dans cette case tous les petits bâtons qu'on appelle donc des fuseaux et qui sont au nombre, qui sont développés ensuite dans les cases. On met un dans la case 1, deux fuseaux dans la case 2, etc. Et quand on a rempli les 9 cases, eh bien, dans zéro, il n'y a plus rien. Alors, ben, zéro, c'est extraordinaire, quoi. On apprend zéro, comme on a appris un et deux et trois. Et ça va servir à composer tous les nombres. Et il y a ce beau matériel de perles dorées, où on a un, dix, cent et mille, enfin, c'est génial, quoi. Quand on met 10 perles sur une petite barrette, quand on fait la 100, 10 fois 10, c'est une plaque. Et le cube de 1000, c'est un cube. C'est les trois dimensions hein, qui sont là. Alors, enfin, moi, je pense que le matériel de mathématiques, c'est génial pour la suite, pour le passage à l'abstraction.
Ça, c'est un millier, ça, c'est une centaine, ça, c'est une dizaine, ça, c'est une unité.
Dans la classe 3-6 ans, on a un matériel qui est sensoriel. L'enfant va vraiment faire l'expérience sensorielle de ce que c'est qu'une unité. Une dizaine, une centaine, un millier, il va les tenir dans la main, les sous-peser, en transporter dans des plateaux. Alors Mathilde, qu'est-ce que tu m'as apporté ? 3000, 200, 40, 5. Ok.
On a entendu une compagne polonaise de Montessori dès les années d'avant la Première Guerre mondiale, dès les années qui ont suivi la fondation de la Maison des Enfants de 1907, les visiteurs étrangers étant nombreux, le mouvement prend une extension internationale extrêmement rapide.
Oui, tout à fait. Dès 1913, les formations que donne Marie Montessori sont internationales. Et elle voyage aux États-Unis à deux reprises, en 14 et en 16. Et elle est reçue comme une vedette. Donc il y a effectivement un engouement très fort et qui se voit interrompu par la Seconde Guerre mondiale tout de même et qui reprend ensuite progressivement.
Et pendant la Première Guerre mondiale, elle a passé du temps en Inde aussi.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a passé 7 années en Inde. Elle y était partie pour quelques mois et puis elle y est restée bloquée.
Je ne veux pas dire, mais enfin, vous m'avez expliqué qu'elle n'est pas partie de la théorie, mais de l'observation. Enfin, quand elle s'implante dans le vaste monde, elle passe quand même souvent par des relais d'influence haut placés. La famille impériale japonaise, la fille du président Wilson, Gandhi en Inde.
Oui, alors je ne pense pas qu'elle les ait personnellement approchés, mais ils ont été touchés par son œuvre et c'était à la suite de visites d'école et non pas à la suite de rencontres avec elle qu'ils étaient impressionnés par ce qu'elle proposait. Parce qu'elle était très en relation avec les écoles et elle y était très présente.
Dites-moi... Iline Canegulescu, qui a préparé cette émission, dit « Oui, j'aurais dû peut-être mettre mes enfants à l'école maternelle, mais après, pour les autres tranches d'âge, je pense qu'il faut raisonner en tranches d'âge. »
Oui, on peut raisonner en tranches d'âge. D'ailleurs, avant l'école maternelle, il y a aussi le Nido, donc la crèche Montessori, ou l'attitude montessorienne qu'on peut avoir à la maison, et puis la communauté enfantine de 18 mois à la marche assurée, donc jusque vers 3 ans. Donc, avant l'école maternelle, il y a déjà une démarche montessorienne possible. Et ensuite, ça continue de 6 à 12 ans. L'école élémentaire, qui est une monoclasse, qui est parfois divisée en deux groupes, 6, 9, 9, 12.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'enseignement mutuel ?
Oui, tout à fait. Les enfants travaillent encore plus que dans la classe 3-6 par groupe, par petit groupe. Et les présentations que l'éducateur fait sont moins individualisées, plus souvent collectives, à un petit groupe. Et chacun travaille à son rythme, dans le respect de ses intérêts. Alors, il ne s'agit pas du tout d'une pédagogie de l'enfant roi où chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est un cadre très structurant dans lequel l'éducation à la liberté est rendue possible. Justement.
C'est-à-dire que l'enfant, il a une sorte de programme défini qu'il doit remplir, une feuille de route qu'il s'est constituée et qu'il présente.
À l'école élémentaire, il a un plan de travail qu'il se constitue et il remplit son contrat. Et tout est basé sur l'auto-évaluation et l'automotivation. Et puis ça continue au collège. Alors c'est très rare, il y en a que 3 en France, mais il y en a un aux États-Unis qui inspire beaucoup de collèges à travers le monde. Et puis il y avait aussi une proposition pour le lycée.
Avenir.
Dont elle a parlé. Alors Avenir, il est déjà aussi mis en place aux États-Unis.
Ouais.
Et il y a quelques classes, il y a une classe en France.
Mais on a aussi une autre impression, c'est que le monde de l'éducation nationale n'est pas nécessairement ouvert aux écoles Montessori. Et que si on veut avoir, comment avez-vous dit, une attitude montessorienne. Bon, c'est possible en famille, c'est possible en maternelle, c'est de plus en plus difficile plus tard, et il faut souvent en passer par des établissements hors contrat.
Alors c'est un état de fait, mais qui tente à s'améliorer. D'ailleurs, notre ministre actuellement est inspiré par le souffle montessorien. Le souffle,
bon ?
Oui, il en parle lui-même dans ses termes, le souffle Montessori.
Et puis alors, comme il est très neurosciences, maintenant je lis dans les publicités des écoles Montessori que Maria Montessori était neurologue.
Eh bien, écoutez, elle a fait des études de neurologie, de psychologie expérimentale et de psychiatrie. Et donc, effectivement, elle s'intéressait au fonctionnement et au développement de l'apprentissage cognitif. Mais elle n'avait pas les outils dont on dispose aujourd'hui. Mais c'est vrai que les découvertes actuelles confirment ces intuitions.
Mais revenons quand même au hors contrat, alors, les écoles de l'éducation nationale.
En France, aujourd'hui, il y a environ 200 structures hors contrat. Et pas mal de structures, alors elles sont une dizaine, sous contrat avec l'État. Parfois, c'est juste une ou deux classes. Et c'est un mouvement qui est en train de se développer considérablement. Et dans les écoles publiques, il y a aussi un grand mouvement qui est en grande partie fédéré par l'association publique Montessori, qui travaille en lien avec l'association Montessori de France, dont je suis administratrice. Et donc, il y a un véritable mouvement dans le public et ça n'a pas lieu de rester cantonné dans les écoles hors contrat.
Et puis, ça n'a pas lieu de rester cantonné aux âges scolaires. Au fond, l'attitude montessorienne, c'est de 0 ans à Alzheimer.
Il y a effectivement des initiatives dans des centres de gériatrie où des patients sont atteints du syndrome d'Alzheimer, et le fait de leur proposer des activités qui ont un déroulé précis, un environnement ordonné et préparé, leur fait énormément de bien et favorise leur joie et leur confiance en eux.
Le coup de pied de l'âne, si vous permettez, Charlotte Poussin, Freinet.
Oui.
Ça se développe moins maintenant. Excellent livre sur Freinet aux éditions Perrin, qui montre comment le parcours de Freinet a été lié aux guerres, à la guerre d'Espagne, à la résistance. Moi, je crois que si ça marche bien, Montessori, c'est que c'est moins politique. Puis ça fait moins gauche, quoi. Gauche, entre guillemets.
Je pense vraiment, et il faut qu'on s'en préserve, je pense vraiment qu'il faut apolitiser la question de l'éducation. Et c'est justement le discours de Maria Montessori. Et si l'éducation nationale pouvait aussi être moins politique et qu'on pouvait être sûr que les bonnes initiatives perdurent et ne changent pas à chaque changement gouvernemental, ce serait formidable. Il faudrait vraiment apolitiser la question de l'éducation, parce que c'est l'avenir de toute une génération qui en dépend. On peut pas changer tout.
C'était une personnalité religieuse, Montessori. Elle disait que l'enfant sublime, c'était le petit frère de l'enfant Jésus.
Ah, c'était une femme qui a été élevée, qui avait des convictions catholiques, mais qui était aussi, de par la vie qu'elle a menée, très très ouverte à toutes les religions. Et ses écoles étaient à cette image laïque. Certaines étaient sous contrat catholique, mais pas aussi juive ou musulmane.
Merci à vous, Charlotte Poussin, de vous être défendue vigoureusement. La pédagogie Montessori, collection Que sais-je. Et puis chez Erol, vous avez déjà dirigé deux livres sur l'attitude montessorienne en situation. Ilinka Negulesco, Valérie Aistaray et Audrey Ripouille à la réalisation, Loïc Frapsos à la technique. Et maintenant, Mathieu Bidard.
Oui, dans un instant, Jean, dans La Tête au Carré, on va s'intéresser aux méthodes de la police scientifique avec, bien sûr, nos experts.